Il y a dans la vie de tout être humain des choses qui peuvent nous troubler. Nous avons lu un premier texte, nous en lirons peut-être d'autres, mais plus courts encore, qui montrent qu'il y a bien des éléments dans la vie qui peuvent nous troubler, qui peuvent troubler notre calme, notre sérénité. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme a dit quelqu'un. Nous pouvons nous attendre à avoir des difficultés, des épreuves, des événements qui troublent notre vie. Le premier texte que nous avons lu nous parle du roi Hérode, qui n'était pas bien sûr un croyant, ou alors c'était un croyant de façade, un croyant superficiel. Le roi Hérode n'était pas aimé par le peuple d'Israël, et nous voyons dans ce texte, bien sûr j'ai fait lire ce texte alors que nous ne sommes pas à l'époque de Noël, mais mon intention n'était pas de parler sur Noël, bien sûr. Le roi Hérode a reçu un jour une visite particulière. Vous savez que on se lève tous les matins en principe, et quand on se lève le matin, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Comme nous sommes des gens prévoyants ou organisés, ou qui avons un travail, ou qui devons aller pour les plus jeunes à l'école, nous suivons le planning de la journée. Mais il arrive parfois que dans ce planning, il arrive des événements inhabituels. Ça peut être une nouvelle qui concerne la famille, ça peut être une nouvelle qui nous concerne directement dans notre travail, etc., etc. Le roi Hérode, ce matin-là, s'était levé comme tous les jours. Il régnait sur Israël en dictateur, on peut dire le mot. C'était un roi qui avait été un grand roi parce qu'il avait fait de grandes constructions. Il avait administré assez bien son pays. Et c'est lui qui avait lancé la reconstruction, ou plutôt la restauration du temple de Jérusalem, qui était une grande œuvre qui avait duré 46 ans. Mais un jour, des hommes sont venus le voir. Ils ont demandé à le voir. Pourquoi ? Parce qu'il était le roi des Juifs. Et ils avaient découvert, en étudiant les astres, qu'il y avait allait avoir un roi des Juifs qui venait de naître. Alors ils se sont dit, pour savoir que signifie tout cela, il faut que nous allions voir le roi des Juifs actuel. Et nous avons lu ce texte est bien connu, et dans ce texte nous avons vu que les rois mages sont venus et ont dit au roi des Juifs en poste, nous avons appris qu'un roi des Juifs venait de naître. Alors évidemment, ce n'était pas lui. Il avait peut-être 50 ans quand cette histoire a eu lieu. Et il savait très bien que ça ne s'agissait pas de lui. Et le verset important dans ce texte, ce matin, cet après-midi, pardon, c'est le texte du verset 3, où il est dit « Le roi Hérode, quand il apprit cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. » Il a été troublé, pourquoi ? Parce qu'il a appris qu'il y avait un nouveau roi des Juifs qui venait de naître. Alors, moi j'aurais été à sa place, je ne me serais pas trop inquiété, parce que si on me dit un roi des Juifs vient de naître, je me serais dit, il y a encore quelques années avant qu'il entre en fonction. Et puis, bien sûr, ce qui inquiétait Hérode, c'est qu'à l'époque, on se succédait de père en fils, en tout cas à l'intérieur d'une même famille. Et visiblement, cet enfant était né en dehors de sa famille, sinon il aurait été le premier informé, sans doute. Donc, le roi Hérode a compris qu'il s'agissait d'un événement qui échappait à son contrôle. Et je crois que c'est aussi pour cela que l'Évangile dit « Le roi fut troublé ». Il fut troublé quand il a appris qu'un autre roi des Juifs que lui, qui n'était pas de sa famille, venait de naître. Ça voulait dire qu'à partir de maintenant, quelque chose est en marche, un jour ou l'autre. Et vous savez que parfois, et d'ailleurs dans la Bible nous le voyons, certains rois sont montés sur le trône à des âges très jeunes. Nous avons par exemple dans l'Ancien Testament, dans la Bible, l'histoire du roi Josias, qui a été, soit dit en passant, un des meilleurs rois de toute l'histoire d'Israël, et qui est monté sur le trône à l'âge de 8 ans. Alors bien sûr, ce n'était pas lui qui prenait les décisions les plus importantes, bien évidemment. Il y avait, comme on a vu aussi cela dans l'histoire de France et sans doute dans bien d'autres pays, il y avait quelqu'un qui assurait ce qu'on appelle la régence, qui donc régnait à sa place, sans avoir le titre de roi ou de reine, mais qui assumait la fonction en attendant que le roi soit en âge de prendre lui-même les décisions. Mais tout cela pour dire que Hérode a été surpris. Et la Bible dit qu'il a été troublé parce que les événements commençaient à lui échapper. Et c'était son rôle de roi qui était directement concerné. Nous avons remarqué dans ce verset 3 qu'il est dit « Le roi Hérode, quand il a appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » Et nous pouvons nous interroger parce que le roi Hérode, nous disent les historiens, était un roi qui était détesté par son peuple. Son peuple le détestait. D'abord parce qu'il n'était pas complètement juif et ensuite parce que c'était un roi très cruel qui avait fait assassiner plusieurs membres de sa famille et qui avait fait assassiner bien d'autres gens qui n'étaient pas de sa famille. Et nous voyons dans l'Évangile que quelques versets plus loin, il va faire assassiner des enfants pour être sûr que, parce qu'il était convaincu que Jésus était encore là à Bethléem alors qu'il n'était déjà plus là, pour être sûr de pouvoir tuer Jésus et donc de faire tuer ce nouveau roi des Juifs qui venait de naître. La chose importante, ce n'est pas seulement que le roi Hérode a été troublé, parce qu'après tout, nous allons le voir dans quelques minutes, il y a bien des événements qui peuvent nous troubler. Mais c'est parce que tout Jérusalem a été troublé avec lui. Comment imaginer qu'une ville peut être troublée quand ses habitants détestent le roi ? Je pense que les gens se sont plutôt réjouis de savoir qu'un nouveau roi venait de naître. Alors bien sûr, ils se sont dit, on va peut-être quand même attendre encore un petit peu de temps avant de le voir régner, celui-là. Mais nous avons toutes les chances qu'il sera meilleur que Hérode, puisque pire, c'est guère possible. Un roi plus cruel, plus despote, ce n'est pas possible. Donc celui-là sera forcément un petit peu mieux, minimum, voire même beaucoup mieux. Bien sûr, il était beaucoup mieux, largement beaucoup mieux. Mais ce qui est étonnant, c'est que tout Jérusalem a été troublé avec lui. Et je crois que c'est dû simplement au fait que le roi a été très mécontent d'apprendre qu'un nouveau roi venait de naître. Même s'il y avait du temps avant que ce nouveau roi monte sur le trône, il s'est dit, voilà un événement qui m'échappe, je suis troublé. Et vous savez, quand un dictateur est troublé, il fait pas bon rester dans le pays du dictateur, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va décider de faire. Et je crois qu'il y a eu certainement ce trouble de tout Jérusalem, c'est certainement dû au risque de colère du roi, au risque de rétorsion contre qui personne ne savait, mais le roi se sentant menacé, un dictateur qui se sent menacé, c'est jamais trop conseillé de le fréquenter. Donc le roi Hérode a senti son pouvoir lui échapper quelque peu sans trop savoir comment cela allait se passer, mais il est dit que le roi Hérode est entré dans une grande colère quand il a surtout compris que les mages qui lui avaient annoncé cette nouvelle étaient partis vite pour ne pas avoir à le revoir encore une fois et lui dire surtout, parce qu'il ne voulait surtout pas lui dire où se trouvait ce roi des Juifs. Il y a bien d'autres événements qui peuvent nous troubler. La Bible parle par exemple d'un autre homme qui s'appelait Job. La Bible dit que Job était un homme bien. Je lis le texte de la Bible. La Bible dit, Job 1, verset 1, « Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et ne pratiquait pas le mal. » Il est dit que c'était un homme qui était très, très sérieux, très fidèle à Dieu, qui cherchait toujours à faire le bien. Et lorsque plus tard, il va lui arriver une tragédie, puisque il a perdu en quelques jours ses enfants et tous ses biens. C'était un homme riche qui avait beaucoup de troupeaux d'animaux et il a perdu tous ses troupeaux et ses enfants et il s'est retrouvé seul avec sa femme et vous pouvez imaginer dans quelle ambiance après une telle tragédie. La Bible dit que Job aidait les gens. Un de ses amis est venu le voir parce que, après cette tragédie, il a commencé à développer une maladie qui a fait que son corps était couvert d'ulcères. Et alors qu'il était dans cette détresse, la Bible dit que ses amis, trois de ses amis sont venus le voir. Et l'un de ses amis lui a dit ceci, « Tu sais Job, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, c'est-à-dire les gens qui étaient fatigués, tes paroles ont aidé ceux qui chancelaient et tu as affermi les genoux qui pliaient. » Cela veut dire, Job aidait les gens, il aidait les autres. Il ne pensait pas qu'à lui. Bien que ce fût un homme très riche, il aidait ceux qui étaient dans la difficulté. C'était donc un homme formidable. Mais son ami lui dit, « Maintenant que tu es atteint, sous-entendu par la maladie et le malheur, tu te troubles. » Job était troublé lui aussi. Mais pas par la même chose que Hérode, bien évidemment. Job était troublé parce qu'il vivait des difficultés et qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il est vrai que quand tout va bien, quand on vit, alors je ne sais pas par expérience, mais quand on vit dans la richesse, quand on n'a pas de problème financier, quand on peut acheter tout ce qu'on peut avoir besoin d'acheter, je dis bien besoin, pas envie d'acheter, mais tout ce qu'on a besoin d'acheter, parce que Job était un homme bien, et Job, visiblement, n'utilisait pas ses richesses pour acheter n'importe quoi. Il pourvoyait aux besoins des autres, ça veut dire qu'il mettait sa richesse, une partie de ses richesses, à la disposition des autres quand ils en avaient besoin, quand ils étaient dans le besoin, comme on dit aujourd'hui. Et donc, Job n'a pas compris pourquoi il avait toutes ces difficultés. Un de ses amis lui a dit, c'est sans doute parce que tu as commis quelques péchés secrets qu'il t'arrive tout cela. Mais cela, ce n'est pas un enseignement de la Bible. Dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, il n'est jamais dit que l'homme qui pêche, il lui arrivera malheur. Oui, bien sûr, s'il continue à pêcher, à la fin, il lui arrivera malheur. Parce qu'il ne sera pas sauvé, parce qu'il ne connaîtra pas l'éternité avec Dieu. Donc ça, oui, il connaîtra ce genre de malheur. Mais la Bible ne fait jamais de lien étroit, entre le fait de commettre des fautes et de tomber malade, par exemple. Il n'y a que deux petites allusions à cela. Et encore, la première, c'est lorsque Jésus rencontre un malade, et la première chose qu'il lui dit, c'est « Tes péchés te sont pardonnés ». Mais Jésus ne dit pas que l'homme est malade parce qu'il a péché. Il dit cela plutôt parce que sans doute cet homme avait du mal à croire que ses péchés étaient pardonnés. Il avait du mal à croire la grâce de Dieu. Par contre, dans un autre exemple, dans Jean chapitre 5, il nous est dit que Jésus, vous vous rappelez l'histoire sans doute, si vous lisez la Bible régulièrement, Jésus arrive au bord d'un bassin, d'une piscine, autour de laquelle il y a de nombreux malades qui sont réunis. L'histoire dit que dans cette piscine, c'est un grand mot, rien à voir avec les piscines que nous avons, enfin, que certains peuvent avoir, je n'en ai pas chez moi, mais que certains peuvent avoir dans leur jardin, c'était plutôt un bassin creusé dans la roche, un bassin naturel. Et les gens avaient remarqué que de temps en temps, l'eau bougeait. Il y avait quelques vagues. Et quelqu'un, un jour, était descendu dans l'eau, étant malade, alors qu'il y avait des vagues, et il avait été guéri instantanément. Alors, il s'était dit, tiens, peut-être que cette eau a des vertus particulières. Et les gens avaient découvert que chaque fois que l'eau bougeait, elle bougeait de temps en temps, et chaque fois que quelqu'un descendait le premier, enfin, peut-être le premier, dans l'eau, il était guéri. Et la Bible dit que Jésus a vu là qu'il y avait un homme qui ne pouvait pas se déplacer. Cet homme, lui aussi, était troublé parce qu'il voyait cette eau qui bougeait, mais comme il le dit à Jésus un peu plus tard, chaque fois que j'essaye de descendre parce que je suis handicapé, chaque fois que j'essaye de descendre les marches jusqu'à l'eau pour rentrer dans l'eau, quand elle bouge, il y a toujours quelqu'un qui descend avant moi, qui va plus vite que moi. Quelqu'un sans doute qui souffre d'une autre maladie moins invalidante. Alors, Jésus le guérit, cet homme. Jésus le guérit, miraculeusement. Et après, quand il le retrouve, quelques jours plus tard, il lui dit « Tu as été guéri, Maintenant, va et ne pêche plus. » Donc ici, on peut faire un petit rapport. Peut-être que cet homme, si Jésus lui dit cela, vous savez que Jésus ne parle jamais en l'air, Jésus parle toujours de manière intelligente et sage, et nous pouvons croire ses paroles, elles sont toujours vraies. Quand Jésus dit « va et ne pêche plus », cela laisse entendre que peut-être il y avait un lien entre son état et une vie vécue dans le péché. Job était troublé parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais plus tard, il va comprendre qu'il ne vivait pas cette tragédie parce qu'il avait péché. Il y avait un enjeu, une bataille entre le mal et le bien, entre Dieu et Satan, et Dieu a fini par remporter la victoire, bien évidemment. Et la Bible dit que Job a été guéri de ses ulcères, et qu'il a eu de nouveaux enfants, il a eu de nouveaux troupeaux, et qu'après il en avait beaucoup plus, et il était beaucoup plus riche qu'avant l'épreuve, parce que Dieu est fidèle. Nous allons passer à un autre cas de gens qui ont été troublés. Dans Marc, au chapitre 10, verset 32, Marc 10, 32, voilà un texte qui nous parle du moment où Jésus annonce à ses disciples qu'il va bientôt partir. Les disciples sont avec Jésus, ils vivent avec Jésus depuis bientôt 3 ans, ils sont tous les jours avec lui, ils voyagent avec lui, ils mangent avec lui, ils écoutent son enseignement, et son enseignement leur fait beaucoup de bien, ils sont heureux avec lui, mais ils commencent à comprendre, parce que Jésus leur laisse entendre que cela ne va pas durer tout le temps. Il commence à les préparer à son départ, à son arrestation, et d'ailleurs juste après, il va dire qu'il va être arrêté. Mais on va lire je vais vous lire ce texte, Marc 10, 32 à 34. Jésus et ses disciples étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés. Pourquoi ? Parce qu'ils sentaient qu'il se préparait quelque chose. Ils sentaient que Jésus allait bientôt partir. Ils sentaient que ces bons moments passés avec lui, en tout cas c'est ce qu'ils croyaient, allaient bientôt se terminer. Et Jésus leur confirme que cela va arriver, puisqu'il dit « Bientôt, je serai livré entre les mains des sacrificateurs et des scribes. Ils me condamneront à mort. Ils me livreront aux païens, c'est-à-dire aux autorités romaines, parce que seules les autorités romaines avaient le droit de mettre à mort, et ils se moqueront de moi, ils cracheront sur moi, ils me battront, et ils me feront mourir. » Et Jésus dit, « Et 3 jours après, je ressusciterai. » Mais les disciples n'ont pas entendu cette parole. Ils n'ont pas entendu cette parole. Des fois, Dieu parle dans sa parole, quand nous la lisons, ou quand nous entendons une prédication, ou quand nous entendons par exemple une émission de radio ou de télévision qui parle de l'Évangile, et nous n'écoutons pas tout. Pourquoi les disciples de Jésus n'ont pas entendu cette dernière parole ? Je dis cela parce que lorsque les événements sont arrivés, ils ont bien montré qu'ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. Puisque après sa mort, ils étaient abattus, ils étaient désemparés, ils avaient peur de la suite. Ils vont se barricader dans leur maison, ils vont fermer les portes à clé, ils vont mettre des barreaux pour qu'on ne vienne pas les voir, pour qu'on ne vienne pas surtout les arrêter, parce qu'ils pouvaient craindre le même sort que Jésus. Et tout cela parce que quand Jésus les a prévenus de ce qui allait arriver, ils n'ont pas cru ce que Jésus avait dit. Parce que si quelqu'un vous dit « je vais avoir beaucoup de problèmes, je vais me faire opérer », je vais être aux portes de la mort, mais je vais m'en sortir. Si vous êtes désemparé par cette annonce, vous entendez la personne qui vous dit, une personne que vous aimez, bien sûr, un proche, un parent peut-être, qui vous dit cela, vous dites, il va lui arriver malheur, il va être très malade, il va être aux portes de la mort, et on n'écoute plus la suite, parce que ce qu'on entend ne nous plaît pas, et on est pris par la mauvaise nouvelle. Et on oublie, et c'est ce qui s'est passé avec les disciples, on oublie que la personne va s'en sortir. Jésus dit, mais au bout de 3 jours, le 3e jour, je ressusciterai. Et les disciples savaient ce que ça voulait dire, ressusciter. Tout le monde sait ce que ça veut dire. D'autant plus que dans l'Ancien Testament, que les disciples connaissaient, c'était les Écritures saintes de leur religion, dans l'Ancien Testament, il y avait eu déjà des récits de résurrection de mort par la puissance de Dieu. Et non seulement cela, mais Jésus, pendant sa vie sur terre, pendant ses 3 ans de ministère, de service pour Dieu, Jésus avait ressuscité des morts. Peu de temps après ces événements-là, Jésus avait ressuscité Lazare, ainsi que d'autres morts. Donc les disciples savaient ce que ça voulait dire, « Je ressusciterai, je vais avoir des problèmes, on va m'arrêter, on va me tuer, mais je vais ressusciter. » Non pas des années plus tard, mais le 3e jour. Alors comment se fait-il que les disciples n'ont pas cru ? Parce qu'ils étaient troublés, tout simplement. Ils étaient troublés. Vous savez que quand on est troublé, on n'entend plus les choses comme lorsqu'on est serein. Lorsqu'on est troublé par un problème grave, ou plus ou moins grave, on ne réagit plus de la même manière. On n'écoute plus les autres. J'ai rencontré des gens, et vous en avez peut-être rencontré, qui lorsqu'ils passent par des moments difficiles, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce qu'ils ont les yeux fixés sur ce qu'ils vivent. Soit ils sont très malades, soit ils ont des gros problèmes, soit ils viennent de perdre leur travail, soit ils ont appris une nouvelle qui les a bouleversés. Et vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, leurs yeux sont concentrés, leurs pensées sont concentrées sur ce qu'ils vivent ou sur ce qu'ils ont entendu. Et les disciples sont comme cela. D'ailleurs, cela est confirmé par la suite. Dans Luc chapitre 24, verset 36, il nous est dit, je ne vais pas lire tous les textes parce que ce serait trop long, mais il nous est montré que les disciples ont continué à être troublés après la mort de Jésus. Ils étaient troublés quand Jésus leur a appris qu'il allait bientôt mourir, mais qu'il ressusciterait 3 jours. C'est pas long, 3 jours. Et lorsque les événements se sont passés exactement comme Jésus les avait annoncés, il me semble qu'ils auraient dû se dire, bon, Jésus nous avait dit qu'il allait être arrêté, il a été arrêté. Il nous a dit qu'il allait être jugé, il a été jugé. Il nous avait dit qu'il serait condamné à mort, il a été condamné à mort. Il nous a dit qu'il allait mourir, il est mort. Et il me semble que, normalement, quelqu'un aurait dû dire, mais il a dit encore autre chose, une dernière chose. Il a dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Il est mort hier, donc il va ressusciter demain, et tout va reprendre. Mais personne n'a dit cela. Personne n'a dit cela. Il me semble, enfin je ne veux pas me grandir par rapport aux apôtres, il me semble que j'aurais dit, mais attendez, encore une journée ou deux. Il va revenir, parce qu'il l'a dit. Et tout ce qu'il a dit avant s'est passé exactement comme il l'a dit, donc la suite va se passer aussi. Et pourtant, la Bible montre que lorsque les disciples se sont retrouvés après la mort de Jésus, ils se sont barricadés et ils ont eu peur. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, il nous a dit que quand Jésus est ressuscité, il est apparu à quelques femmes. Alors les apôtres, peut-être en bon macho, ont dit « Ah, ce sont des femmes qui nous ont dit qu'elles ont vu Jésus. » Excusez-moi, mesdames, mesdemoiselles, je fais que raconter l'histoire et je leur donne tort, bien évidemment. Parce que je remarque que quand Dieu a des grandes nouvelles à annoncer dans la Bible, il les annonce d'abord à des femmes. C'est à une femme, Ève, qu'il a annoncé qu'un jour, il y aurait un homme qui viendrait sauver du péché. C'est à une femme, Marie, bien évidemment la mère de Jésus, que Jésus a annoncé pour la première fois que le Sauveur allait naître. Et c'est à une femme, Marie de Magdala, que Jésus a annoncé, montré le premier, en premier, après sa résurrection. Donc Jésus a un plus grand amour pour les femmes que les hommes en ont généralement. Tout cela pour dire que lorsque les disciples ont entendu dire par quelques femmes, et non pas des moindres, des femmes qui avaient suivi Jésus jusqu'au bout, que Jésus était ressuscité, ils ne l'ont pas cru. Et nous lisons dans le dernier chapitre de l'évangile de Luc que quand Jésus s'est retrouvé avec ses disciples, il leur a reproché deux choses. D'abord leur manque de foi et deuxièmement la dureté de leur cœur. Lorsqu'on est troublé, on peut écouter les autres et reprendre courage, mais très souvent, on réagit par l'incrédulité. On ne croit pas que les choses vont aller mieux un jour. On ne croit pas que ce qui fait l'objet de notre trouble va disparaître. Et quand on est troublé, on a tendance à avoir le cœur dur. Parce qu'on est troublé dans la mesure où on ne comprend pas, où on ne veut pas essayer de comprendre ce qui nous arrive. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Et quelque part, inconsciemment, on se révolte contre son sort. Et c'est ce que Jésus va reprocher à ses disciples. C'est écrit dans, je crois que c'est Luc chapitre 24, chapitre 16, verset 14. Il est dit ceci, Marc 16, 14. Jésus apparut aux 11 disciples pendant qu'ils étaient à table, donc après sa résurrection, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux, on pourrait dire même celles, qu'ils l'avaient vu ressusciter. Chaque fois que l'on ne fait pas attention à ce que Dieu dit, donc ils n'avaient pas fait attention que Jésus avait dit « Je ressusciterai le troisième jour ». Chaque fois que l'on ne croit pas à ce que ceux qui ont vu Jésus nous disent, ceux qui l'ont rencontré, ceux qui vivent avec lui, nous disent, on risque d'être encore plus troublé. Et je dirais encore en conclusion que lorsqu'on est troublé, si on se referme sur soi par incrédulité et par dureté de cœur, notre épreuve qui nous trouble risque d'être encore plus longue. Parce que la seule chose qui peut nous sortir de l'épreuve, c'est de regarder vers Jésus. Et si nous ne comprenons pas que l'épreuve est là pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre des choses que nous n'aurons peut-être jamais comprises, l'épreuve, j'ai coutume de le dire et je vais terminer par cela, l'épreuve, dans la Bible, c'est le même mot que le mot « examen ». Quand nous étions jeunes, et à ceux qui étaient jeunes, à ceux qui sont encore jeunes actuellement, ou un jour ou l'autre, peut-être pas cette année, mais une autre année, vous passerez des examens. Il y en a qui passent des examens cette année ? Bon, courage, courage. Les examens, quel est leur but ? Est-ce que c'est de nous mettre dans l'embarras ? Non. Même si parfois nous sommes embarrassés quand nous découvrons le texte de l'examen. Bon. Mais l'examen a un but précis. L'examen, c'est comme l'épreuve dans le domaine spirituel. L'examen a pour but de vérifier à quel niveau nous sommes arrivés. Ce que nous avons compris par rapport à ce que nous avons appris. Ce que nous avons compris. Lorsque j'allais à l'école, je passais bien sûr des examens, j'en ai passé un certain nombre, et à chaque fois, je le prenais comme une véritable épreuve. D'ailleurs, on appelle ça aussi des épreuves. Une épreuve de mathématiques, une épreuve de français. Mais le but de l'épreuve, c'est de vérifier notre niveau, simplement. Rien d'autre. Et dans le domaine spirituel, le but de l'épreuve, c'est de vérifier à quel niveau de maturité spirituelle nous sommes arrivés. Mais le but de l'épreuve, c'est pas de la faire durer le plus possible, comme si on disait, s'il y en a qui vont passer le bac, eh bien, le bac cette année durera peut-être un mois. Vous imaginez ? Tous les jours, vous viendrez passer des épreuves. Ça durera un mois. Non, le bac ne dure pas un mois, par exemple. Il dure deux, trois, je ne sais plus combien d'ailleurs. Ça dépend, ça a dû être réformé depuis. Mais ça dure quelques jours, maximum, en tout. même avec le repêchage, si ça existe encore. Eh bien, dans la vie spirituelle, l'épreuve ne dure qu'un temps. Dieu veut simplement vérifier où nous en sommes, si nous avons confiance en lui. Alors, quand nous passons par l'épreuve, quand nous sommes troublés par un événement ou par un autre, gardons les yeux fixés sur Jésus. Jésus a dit à ses disciples avant de les quitter, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous donne ma paix. Nous n'avons pas de raison d'être troublés en tant que chrétiens si nous gardons les yeux toujours fixés sur Jésus. Que Dieu vous bénisse.